Τρίτη Ευρώπη.
Ρεσκούτσια Ευρώπη.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Presque partout en Europe, un an de confinement, de déconfinement, de couvre-feu, bref, de contraintes de moins en moins bien acceptées par les populations de plus en plus lasses et moroses. Des vaccins inespérés il y a quelques temps sont déjà administrés dans les 27 pays de l'Union. La Commission a commandé plus de 2 milliards de doses, mais les retards de livraison suscitent impatience et irritation. Querelle autour du passeport vaccinal, sera-t-il le deuxième passeport indispensable pour voyager en Europe et dans le monde cet été et au-delà? Et puis cette crise sanitaire mondiale remet-elle en cause la confiance des citoyens envers leurs gouvernants? Et encore, comment est perçu le rôle de l'Union européenne qui a précommandé les vaccins, mais qui a déjà débloqué plusieurs centaines de milliards d'euros pour que chaque État puisse venir au secours des salariés au chômage et aux entreprises en grande difficulté, et qui est en train de finaliser un plan de relance de 750 milliards d'euros? L'Europe aux prises avec la plus grande pandémie contemporaine, nous allons en débattre avec quatre journalistes européens chevronnés. Je vous les présente. John Henley, bonjour. Hello, John.
Bonjour.
John Henley, le Guardian de Londres. Paolo Levi, hola.
Hola, buongiorno.
L'agence italienne de presse ANSA, Piotr Mojinski, dzień dobry.
Dzień dobry, bonjour.
Gazeta Wyborcza, Varsovie, et Pascal Thibault, guten Tag, Pascal.
Guten Tag.
Bon. RFI Berlin, bien évidemment. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Beniamino Morante. Alors, nous allons commencer par un petit tour d'Europe des situations, confinement ou pas, couvre-feu, école ouverte ou pas. Et qu'en est-il des magasins, des centres commerciaux, des restaurants, des cinémas, des théâtres et des musées? On commence par vous, Pascal Thibault, à Berlin. L'Allemagne a été très touchée par la deuxième vague cet automne et cet hiver, avec deux fois plus de victimes que lors de la première vague du printemps 2020, ce qui a entraîné un confinement strict. Où en est-on maintenant à Berlin ?
Mais écoutez, les règles d'abord, disons, soft adoptées début novembre et renforcées à la mi-décembre ont été prolongées jusqu'au 7 mars. On en saura un petit peu plus la semaine prochaine lors d'une énième rencontre entre Angela Merkel et les régions pour savoir si on les prolonge encore un peu plus ou pas. Il est vrai qu'elles ont porté leurs fruits, ces mesures renforcées à partir de la mi-décembre, avec une décrue du nombre des infections, avec également un nombre moins important de personnes traitées en soins intensif, mais on a atteint, comme d'autres pays, dans les deux dernières semaines, un plateau, avec même parfois une légère reprise du taux d'incidence virale, ce qui est probablement dû à l'augmentation du nombre du variant britannique. Et donc, on est un peu dans une période d'incertitude. On sent qu'il y a une pression. Les Allemands sont fatigués, aimeraient bien que tout cela finisse. Il commence à faire beau. Mais en même temps, il y a toujours des craintes d'assouplir tout cela et éventuellement de devoir aller vers un troisième confinement, même s'il n'y a jamais eu de confinement stricto sensu en Allemagne.
On peut aller boire une bière en terrasse en Allemagne ou pas encore?
Non, non, les cafés, les restaurants sont fermés. On peut acheter quelque chose à la porte du bar ou du restaurant et aller s'asseoir sur un banc au soleil à côté, mais on ne peut pas profiter des terrasses, non.
Paolo Levi, situation bien différente en Italie, particulièrement meurtrie lors de la première vague et guère épargnée par la seconde. Est-ce qu'il y a un léger assouplissement des contraintes en ce moment en Italie ?
Oui, il y a eu un assouplissement des contraintes qui durent désormais depuis un mois, mais là, les choses sont en train de changer très très rapidement et il est fort probable que le gouvernement de Mario Draghi qui vient de s'installer va être contraint à faire une machine arrière et à resserrer un petit peu la vis. Il y a un débat virulent dans ces heures même, y compris au sein du gouvernement avec Matteo Salvini qui râle contre l'hypothèse de reconfiner pour les vacances de Pâques. Il y a un nouveau décret qui est prévu et qui va devoir réglementer la période 6 mars, 6 avril. Donc le débat actuellement est en cours, mais il est fort probable que l'Italie va devoir à nouveau refermer partiellement parce que, comme il était d'ailleurs prévisible, la variante anglaise est en train d'arriver même chez nous. Et voilà, on a fait semblant de ne rien voir. soir pendant quelques semaines, mais là, on ne peut plus rigoler. Donc, il est fort probable que l'Italie va devoir faire machine arrière.
Piotr Wojcinski, situation différente. La Pologne, comme tous les pays d'Europe centrale et orientale, a été épargnée lors de la première vague, mais elle a pris de plein fouet la deuxième vague. Comment vit-on à Varsovie cette deuxième vague? On est encore confiné. Qu'est-ce qui est ouvert à Varsovie et en Pologne plus généralement?
Eh bien, il faut souligner d'abord qu'en Pologne, depuis quelques jours, on parle tout à fait officiellement d'une troisième vague qui a commencé en Pologne. C'est pour cela que le gouvernement a annoncé quelques nouvelles restrictions, surtout concernant les masques. Il n'est plus permis de porter des foulards, de masques artisanaux en tissu, juste les masques chirurgicaux et encore plus spécialisés avec des filtres, etc., sont autorisés actuellement. Et quant au confinement, le gouvernement a un peu changé de stratégie, c'est-à-dire maintenant, c'est la stratégie régionale.
Tout est fermé, on l'a bien compris, hein. Tout est fermé.
Tout est fermé et les hôteliers là-bas sont vraiment en désarroi car il y a 2 ou 3 semaines, le gouvernement a autorisé à l'échelle du pays l'ouverture des hôtels. Donc ils ont ouvert, ils ont pris plein de réservations, surtout pour le week-end qui vient. Or, c'est justement à partir de samedi que le confinement total de la région va entrer en vigueur. Donc ils se demandent, est-ce que aux touristes qui viennent vendredi, nous allons dire samedi matin, alors faites vos valises et allez-vous-en. Et comment est-ce qu'on joue ce problème? Comment on résout cette situation?
Beaucoup d'incertitudes à Varsovie, en Pologne, on l'a compris, Piotr. Dernière étape de notre petit tour des Europes avec vous, Jeanne Henley. Le Royaume-Uni est le pays en Europe qui a connu le plus grand nombre de décès avec plus de 120 000 morts. Un confinement très sévère s'est propagé tout sur le territoire britannique. Il s'allège progressivement, mais très très progressivement.
Très progressivement, oui, vous avez raison, Daniel. Oui, le Premier ministre, donc, Boris Johnson, a annoncé cette semaine un plan de sortie, une véritable route avec des étapes pour sortir de, comme vous le dites, l'un des confinements les plus durs de l'Europe. Donc, à partir du 8 mars, les écoles vont ouvrir et les Anglais auront le droit, à partir du 8 mars, de rencontrer une autre personne dehors, c'est-à-dire peut-être dans son jardin, c'est la joie. À partir du 29 mars, seront permis les assemblées de 6 personnes, toujours dehors, et on aura le droit de sortir de chez soi sans raison valide. Puis le 12 avril, les commerces non essentiels vont rouvrir et les restos et les pubs, etc., mais seulement, encore une fois, dehors, donc ceux avec les terrasses, avec les jardins, etc. Puis le 17 mai, c'est l'intérieur, les intérieurs des restos, cafés, et les gens pourront se rencontrer à 6 à l'intérieur, à ce moment-là, donc le mi-mai. Et finalement, on prévoit le 21 juin, la vie sera à peu près normal.
Ce sera le jour de l'été.
Boris Johnson, mais tout cela évidemment dépendra des chiffres parce que, comme tous vos autres correspondants ont dit, le variant anglais, il arrive d'Angleterre et voilà, il fait des ravages en Angleterre aussi.
Il y a évidemment beaucoup de points d'interrogation sur toutes ces dates que Boris Johnson a citées. Cela va faire un an que nous vivons avec la pandémie. La sidération a succédé une grande fatigue morale des Européens au gré des confinements, reconfinements, couvre-feux et contraintes diverses. Quel est l'état d'esprit des Européens? Le Civipof Sciences Po a publié une étude européenne réalisée dans 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et bien sûr la France. Les situations sont différentes d'un pays à l'autre, mais elles ont tout un point commun, l'épuisement des citoyens. Ainsi, 41% des Français éprouvent une lassitude face à une crise qu'ils perçoivent sans fin. Sentiment identique en Italie avec 40% des Italiens qui sont là et même très là, contre 31% 10% des Britanniques et seulement 15% des Allemands. Même tendance en ce qui concerne le sentiment de morosité. Il touche 34% des Français contre seulement 15% des Allemands qui se disent moroses. Alors, Pascal Thibault, cette résilience des Allemands par rapport aux autres Européens interpelle, alors même que l'Allemagne ait connu une deuxième vague particulièrement meurtrière, peut-on l'expliquer avec des mots au-delà des chiffres d'une enquête? 40% des Allemands se disent même sereins, Pascal Thibault.
Oui, c'est vrai que cet optimisme contraste avec celui ou le pessimisme plus important dans d'autres pays. Je crois qu'il y a le fait que, certes, la situation sanitaire a été plus sérieuse durant cette deuxième vague, mais que globalement, la situation, notamment économique, reste, comparée à d'autres pays, plus positive. Les Allemands, par exemple, n'ont pas d'angoisse sur leur avenir professionnel. L'augmentation du chômage a été réduite. Alors, certes, on est de plus en plus là des contraintes, mais il faut dire qu'on n'a jamais eu de contraintes aussi importantes que celles qu'on a pu connaître dans d'autres pays. On n'a jamais été confiné ici, puisqu'on pouvait sortir de chez soi sans avoir à remplir un formulaire ou sans être contrôlé en permanence, ce qui évidemment rend les choses un petit peu plus faciles. Il y a aussi une confiance globale dans la politique et les responsables actuels qui reste importante, à commencer par la première personne concernée, la chancelière Merkel, environ 70% toujours d'opinion favorable après plus de 15 ans au pouvoir. Le fait aussi qu'ici on a un système fédéral avec beaucoup d'acteurs régionaux qui jouent aussi un rôle peut aussi rendre cette politique plus appréhendable ou en tout cas les moins commandée, orchestrée d'en haut vers le bas avec des coalitions diverses et variées dans les différents länders qui fait que finalement elle est supporter cette politique sanitaire et ses conséquences par une très large majeure partie du spectre politique.
Pardon, Olivier, les Italiens sont un peu moins moroses et un peu plus sereins que les Français qui, entre parenthèses, détiennent la palme du pessimisme européen. Vous qui êtes très biculturel, vous y voyez une explication ou pas vraiment?
Je sais pas à quoi ça peut être lié. Certes, il y a des chiffres inquiétants par rapport à dans cette enquête Cevipof, seulement un quart des interviewés en Italie ont des sentiments positifs ou à la limite neutres par rapport à la politique italienne. Pour le reste, c'était là aussi dégoût, peur, ennui. Ceci dit, cette enquête a été faite. Voilà, nous venons de vivre un changement de gouvernement, donc il faudrait voir aussi avec ce nouveau gouvernement Draghi qui arrive à l'issue d'une crise politique de 2 mois, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui, s'il y a plus de confiance. Une chose est sûre, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, il y a moins de confiance dans les politiques, mais il y a plus de confiance, il y a un regain de la confiance pour les institutions, donc au niveau local, régional, national et même européen. C'est très intéressant de voir que ça a progressé au niveau européen, disons la confiance dans les institutions européennes a progressé de 6 à 42% en un an. Donc là aussi, c'est des réponses assez contradictoires et contrastantes et qui peut-être reflètent aussi une période un peu confuse où on avance tous à vue, on navigue à vue au rythme de la pandémie.
Alors on peut remarquer que pendant cette crise sanitaire, les Italiens n'ont quand même cédé à leur petit péché mignon qui est la crise politique, c'est-à-dire qu'il y a eu une crise dans la crise.
Et ça, on pouvait pas s'en priver en Italie. S'il n'y a pas une crise politique, au moins une fois par an, on n'est pas content. Donc, la politique politicienne, de temps en temps, y compris en un contexte de guerre, ne serait-ce que sanitaire, mais de guerre, elle est revenue en grande pompe. Et espérons qu'avec ce nouveau gouvernement d'unité nationale qui s'est mis en place, les choses puissent être plus stables, parce que il n'y a pas d'Europe sans Italie et il n'y a pas d'Italie sans Europe. Et donc, surtout dans un contexte si particulier, l'unité nationale et européenne est fondamentale, sinon on ne sera jamais gagnant sur le virus.
L'enquête du Cevipof n'a pas pris en compte la Pologne. Piotr Mojinski, que sait-on de l'état d'esprit des Polonais?
Alors, c'est plutôt morose en ce moment. Mais d'après les psychiatres et les psychologues qui prennent souvent la parole dans les médias, il y a un effet un peu paradoxal, qui peut sembler en tout cas paradoxal, parce que apparemment les personnes âgées s'adaptent mieux à la situation actuelle. Peut-être, c'est un peu cruel de le dire comme ça, mais peut-être parce qu'elles sont de toute façon habituées un peu à l'isolement, et à peu de contacts sociaux, etc. En revanche, la jeunesse semble vivre vraiment très mal la situation de la pandémie, avec carrément des pensées suicidaires. Ils vivent très mal le manque de contact avec leurs collègues. Donc, ça devient un véritable problème d'une génération. Et ça inquiète énormément les autorités, les médias, et les médias sociaux en particulier, sont maintenant, depuis quelques semaines, pleins de conseils comment surmonter la dépression. Et ce qui m'a particulièrement marqué quand je lis ça, c'est une véritable instruction comment parler à quelqu'un qui souffre d'une dépression. Et il faut lui dire « je t'aime, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Et sous aucun prétexte, il ne faut pas lui dire « il faut que tu te rassaisisses, il faut que tu te portes mieux, mais tout le monde va pas mal, donc pourquoi toi ?» Pas du tout. Il ne faut pas oublier que certes, les écoles sont ouvertes en Pologne, mais les universités marchent vraiment
au ralenti. Les Britanniques sont les plus sereins de l'enquête, en tout cas 42% d'entre eux le sont. Alors compte tenu de la façon dont a été gérée la crise par Boris Johnson, cela peut paraître étonnant. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que l'explication c'est le vaccin? Le succès en tout cas apparent de la campagne vaccinale explique peut-être la sérénité des Britanniques, vous allez nous le dire, malgré les plus de 120 000 morts. Alors un petit mot sur les vaccins. Les Britanniques ont commencé un mois plus tôt que les pays de l'Union européenne avec une stratégie à risque, c'est-à-dire qu'ils ont retardé à 12 semaines l'injection de la deuxième dose de vaccin, alors que les laboratoires l'ont conseillé entre 3 et 4 semaines après la première vaccination. Alors conséquence, 25% de la population britannique environ a reçu une dose, et rares sont les Britanniques qui ont reçu deux doses, contre 5 à 8% pour les Européens du continent. Ce vaccin, c'est une fierté des Britanniques, et ça peut expliquer cette sérénité des Britanniques, John Henley?
En partie, je pense, oui. C'est vrai que les Britanniques commencent, contrairement aux pays sur le continent, de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Mais il y a une autre explication aussi, qui est tout simplement que, comme vous le savez, Daniel, les Britanniques sont dotés d'un sort de un flemme légendaire. Hein, la devise célèbre de la Deuxième Guerre mondiale, « Keep calm and carry on ». Donc, gardez votre calme et continuez. Ça a marché. Les Anglais restent résolument plus optimistes que les pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie,
etc. La France en tête.
La France surtout, qui est d'une morosité extraordinaire. Mais moi, personnellement, je me méfie toujours un petit peu des sondages par rapport aux Français, parce que ça a été toujours mon expérience que le Français moyen, il va toujours choisir la réponse la plus misérable possible à tout sondage qui lui est proposé. Mais non, c'est vrai que les Anglais, oui, ils ont gardé un peu leur flemme. Et bizarrement, même s'ils jugent très très sévèrement la gestion de la crise par le gouvernement de Boris Johnson, qui a été marqué mais qui a été assez catastrophique, des retards sur un confinement, des changements de direction, des revirements de toutes sortes, et comme vous le dites, donc avec comme conséquence la taux de mortalité le plus lourd de l'Europe, 120 000 morts. Mais bizarrement, même si donc les avis favorables de la gestion de la crise par le gouvernement de Johnson a perdu de 25 points dans un an, ils gardent leur confiance dans le gouvernement en général, et surtout dans le système de santé national, la
pourtant malmené.
Nationale, malmené, mais c'est surtout ce système-là, le fameux NHS, qui a réussi vraiment ce coup de maître hein, avec ce programme de vaccination. 15 millions de doses jusqu'ici, c'est quand même quelque chose.
Flegme et résilience, les deux mots-clés pour comprendre l'état d'esprit des Britanniques.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe. L'Europe aux prises avec les plus grandes, la plus grande pandémie contemporaine. Nous sommes avec quatre journalistes européens pour un débat très, très européen par définition. John Henley du Guardian, Paolo Levi de l'agence de presse italienne ANSA, Piotr Bonginski, Gazeta Wyborcza et Pascal Thibault, RFI Berlin. Les Européens ont fait le choix d'une commande groupée de vaccins et peut-être d'une plus grande prudence dans la certification des vaccins autorisés. Pour rappel, ils sont aujourd'hui au nombre de 3 disponibles. Ils devraient être 5 courant juin. Cette stratégie de commande globale a parfois été critiquée parce qu'elle aurait ralenti la mise en place de la campagne de vaccination, par exemple, à contrario de ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous allons prendre la direction de la rédaction de Courrier International. Bonjour Benjamin Morant.
Bonjour Daniel.
Loin de critiquer l'Europe, le quotidien milanais Il Foglio félicite, une fois n'est pas coutume, la stratégie vaccinale de l'Union européenne.
Oui, c'est ça, tout à fait Daniel. Bon, alors, on le sait, hein, les pays de l'UE, on les a accusés d'aller au ralenti, de ne pas avoir assez de doses, les Britanniques font toujours bien mieux que nous, etc. Mais en fait, le journaliste d'Il Foglio, il invite le lecteur à changer un peu de perspective, à avoir un point de vue un peu plus original. Parce que l'Union européenne, alors c'est l'Allemagne, c'est la France, mais ce n'est pas que ces pays-là. À l'est et au nord, par exemple, il y a la Finlande et la Slovaquie. Et le saviez-vous, en fait, ces deux petits pays d'à peine 5 millions d'habitants ont vacciné davantage que nous et les Allemands. Enfin, du moins selon les derniers chiffres que j'ai pu regarder, et en pourcentage par rapport à la population, bien sûr.
Alors, aurait-il pu avoir accès à ces vaccins sans la médiation de l'Union européenne, Beniamino ?
Alors, la réponse, c'est non, bien sûr, parce que, je cite l'article, « à part l'Allemagne qui a des ressources financières presque illimitées et qui négocie pour 80 millions de personnes, la plupart des autres États n'auraient pas réussi à négocier autant de doses que ce qu'a fait Ursula von der Leyen, et dans des conditions aussi favorables. » En plus, il n'y a pas que ça, hein, parce que, comme le dit l'article, si on pense à la France, par exemple, comme l'a affirmé le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, si l'UE n'avait pas négocié à sa place, en fait, Paris, on se serait probablement retrouvé maintenant avec un accord avec Sanofi. Et voilà, on sait comment ça s'est passé pour le laboratoire et le vaccin qui n'est pas arrivé. Alors, peut-être, conclut un peu Il Foglio, Bruxelles s'est montrée trop prudente dans sa négociation. Mais il faut aussi dire que le scepticisme en Europe est beaucoup plus accentué qu'au Royaume-Uni ou ailleurs sur les vaccins. En fait, qu'auraient dit les citoyens, par exemple, si l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, avait tout de suite validé les vaccins, un peu comme ça s'est passé au Royaume-Uni ? Peut-être ils n'auraient pas été si satisfaits et si rassurés. Et en fait, en conclusion, le média italien, il invite à juger les résultats de la campagne européenne sur le long terme. Puisque jusqu'à maintenant, pour le moins, on a été solidaires et on a évité une guerre interne des vaccins. Et c'est déjà quelque chose.
Merci Benjamin Morant, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Paolo Levi, vous confirmez pas de remise en cause de la stratégie vaccinale européenne en Italie, bien au contraire.
Ben écoutez, c'est vrai que ça se prête à débat. Une chose est sûre et certaine, le fait d'avoir négocié la question des vaccins au niveau européen a permis à l'Europe et donc aux pays membres d'avoir tout d'abord des vaccins à un prix cassé, ultra concurrentiel par rapport à ceux qu'a payé par exemple Israël ou la Grande-Bretagne, et aussi des garanties très 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 fortes sur ceux qui concernent ensuite les effets secondaires, etc. Donc l'Europe ensemble, elle a été unie, et c'est grâce à ça si aujourd'hui voilà on a des contrats qui sont vraiment complètement sûrs. La machine bien sûr a mis un peu de temps à démarrer, mais il y a bon espoir maintenant qu'elle puisse partir. Il y a une très bonne nouvelle qui est tombée hier, c'est-à-dire c'est ce nouveau vaccin Johnson & Johnson qui a besoin d'une seule piqûre et qui va arriver en Europe au mois de mars, donc avec le printemps, et donc gardons bon espoir. Rappelons aussi que l'Europe c'est 500 millions d'habitants et que voilà, c'est sûr que c'est pas la même chose que des petits pays comme Israël qui est certes en train de faire des miracles du point de vue vaccinal. final, mais la gestion est certes plus facile. Donc c'est un exploit et qu'on ait fait ça au niveau européen. Et je pense que sur le long terme, les livres d'histoire vont le dire, mais je pense que ça a été un grand succès européen et aussi la mise en place d'une certaine forme de solidarité, de fraternité européenne qui n'existait pas auparavant dans le domaine sanitaire. Et c'est une très bonne nouvelle pour tous.
Alors c'est vrai que la gestion d'une pandémie comme celle du Covid-19, c'est plus un marathon qu'un 100 mètres. Piotr Mojinski, on en a parlé dans l'article de la Folio, des petits pays qui auraient eu du mal à acquérir les vaccins sans l'Union européenne. Alors la Pologne n'est pas un petit pays, c'est tout le contraire. Est-ce qu'il y a eu un débat? La Pologne est très souvent critique à l'égard de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu un débat en Pologne sur le thème « on aurait fait mieux tout seul »
Bien sûr, c'est-à-dire le gouvernement polonais a un profil carrément nationaliste, donc évidemment il profite de chaque occasion pour dire que l'Europe ne se débrouille pas suffisamment et qu'il vaut mieux chercher des sources soi-même. D'ailleurs, le président polonais Andrzej Duda, quand il était en visite à Washington et parlait avec Donald Trump, le président de l'époque, à son retour à Varsovie, déclaré que Trump lui avait promis d'assurer une poule spéciale de vaccins Pfizer à la Pologne. Évidemment, c'était une promesse complètement vaine. Et en plus, Trump a perdu le pouvoir et le nouveau président n'a aucune intention de faire des services spéciaux à l'égard du gouvernement polonais. Donc ce qui reste du côté gouvernemental et des acolytes du gouvernement, c'est de dire l'Europe, comme toujours, s'occupe mal des problèmes qu'on lui a confiés. Mais en Pologne même, à l'intérieur, on parle plutôt d'une énorme pagaille bien nationale, celle-ci. Le gouvernement a vraiment mal organisé surtout les débuts des vaccinations, car en première ligne, c'était le personnel médical et le personne de plus de 70 ans. Et donc, on n'a pas du tout pris en compte le fait que les personnes âgées n'avaient pas tendance à s'inscrire, à s'enregistrer pour les vaccinations par Internet. Or, c'était le canal principal pour le faire. Donc, les personnes âgées se sont ruées sur leurs cabinets médicaux les plus proches pour s'y enregistrer, ce qui a donné comme phénomène d'énormes files d'attente de pauvres personnes âgées et dans la température allant de moins 5 à moins 10 degrés à 6 heures du matin pour être premier, pour être assuré de l'enregistrement pour la vaccination. Et puis, une fois la première vague d'inscription passée, on s'est aperçu que pour les habitants des grandes agglomérations, il n'y avait absolument plus de place. Donc, le système les dirigeait automatiquement à 60 voire 100 kilomètres de chez eux. Le record, c'était 600 kilomètres du lieu d'habitation d'une personne de 75 ans. Donc, il y a eu des absurdités absolument incroyables. Et c'est surtout ça qui a été remarqué en Pologne par les Polonais dans le cadre de ce débat sur les vaccinations. L'Europe, en fait, ne les intéressait pas tellement. C'est plutôt les solutions locales, les solutions nationales qui les intéressaient et qui ne marchaient pas du tout au début.
Pour le coup, c'était pas la faute à Bruxelles, mais la faute à Varsovie. On a compris, Piotr. En Allemagne, parce que Thibault, première économie européenne et donc pays le plus riche de l'Europe, évidemment, l'Allemagne aurait pu acheter beaucoup de vaccins en les payant très cher si nécessaire. Et là, en Allemagne, sur le rôle de l'Union européenne dans la stratégie vaccinale, il y a eu un débat. Est-ce qu'il existe encore?
Oui, il y a toujours un débat notamment lié au fait que comme les, dans les autres pays de l'Union européenne, eh bien, la campagne vaccinale, elle a été un peu poussive au début, même si dans les tout premiers jours, et tout ça est un petit peu le reflet parfois de notre vie médiatique à court terme. On s'étonnait en France que l'Allemagne soit déjà si avancée. Mais globalement, évidemment, on a moins vacciné que ce que l'on aurait espéré. Et certains, soit les médias, à commencer par la presse Springer et notamment son organe le plus important, le journal populaire Bild Zeitung, s'est lancé dans une campagne très massive, pour ne pas dire populiste, assez anti-européenne, pour dire que voilà où on en est arrivé là à cause de cette stratégie européenne et que peut-être on aurait mieux fait de jouer la carte nationale. C'est d'ailleurs des critiques qui aussi ont été reprises par une partie de la classe politique et paradoxalement par le SPD, qui pourtant est membre de la coalition, qui elle-même, donc, coalition qui gère les affaires. Et on sent ici aussi, évidemment, le pré-début de la campagne électorale. Et paradoxalement, d'ailleurs, les Verts sont ceux qui sont venus à la rescousse de la chancelière Merkel et de sa stratégie européenne. Il faut rappeler qu'au printemps dernier, quatre pays s'étaient regroupés pour une stratégie commune, l'Italie, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, et qu'Angela Merkel a privilégié une stratégie européenne alors que la présidence allemande de l'Union européenne approchait, ce qui était sans doute d'un point de vue européen aussi une bonne chose politiquement. On imagine qu'avec les moyens, le collègue de Courrier International le soulignait, dont dispose l'Allemagne aurait pu se procurer plus de vaccins que d'autres. On peut imaginer quelle vague de germanophobie se serait déversée sans doute à travers l'Europe.
Il y a aussi un petit débat en Allemagne, Pascal Thibault, sur est-ce qu'il faut, par exemple, avoir recours aux vaccins russes Sputnik V. Alors, un seul pays européen, c'est la Hongrie, a fait appel au Sputnik V. C'est une initiative purement nationale du gouvernement de Viktor Orban en Hongrie. Il y a eu un petit débat sur le sujet en Allemagne, oui ou non, ce vaccin Sputnik V, qui avait au départ très mauvaise presse, et ça s'est un petit peu amélioré par la suite.
Bon, il faut dire que d'un point de vue politique, les relations germano-russes sont particulièrement dégradées. L'affaire, ou en tout cas l'accueil d'Alexei Navalny y a contribué encore un petit peu plus ces derniers mois. Et que donc on est de toute façon un peu, disons, suspicieux par rapport à tout ce qui peut venir de la Russie, c'est vrai. En revanche, depuis que la campagne vaccinale ne va pas aussi vite que prévu, eh bien, on a un petit peu remballé peut-être certains ressentiments anti-russes, et en tout cas ce qu'on dit ici, c'est que pourquoi pas recourir à ce vaccin, c'est ce qu'a dit la chancelière Merkel comme le ministre de la Santé, à condition qu'il satisfasse les mêmes critères, aux mêmes critères que ceux des trois autres qui ont déjà été homologués par l'Agence des médicaments européenne, auquel cas on pourrait avancer. Il y avait d'ailleurs eu une conversation à ce sujet au téléphone entre Angela Merkel et Vladimir Poutine, parce que l'exportation de Sputnik V fait que les moyens de production dont dispose, les capacités de production dont dispose la Russie sont un peu tendues et qu'il faudrait peut-être que des coopérations voient le jour avec d'autres pays ou avec d'autres entreprises, notamment donc au sein de l'Union européenne.
On peut signaler d'ailleurs qu'en Russie, le nombre de personnes vaccinées est plutôt inférieur au nombre d'Européens vaccinés. C'est un débat qui est en train de monter en Europe. Le passeport vaccinal sera-t-il le deuxième passeport indispensable pour voyager en Europe et dans le reste du monde cet été? Alors je commence pour vous, Paolo Lévy, car c'est plutôt les pays du Sud, la Grèce notamment, mais aussi Chypre et un peu l'Espagne et le Portugal, en gros les pays très touristiques, et l'Italie est un pays très touristique, qui sont un peu favorables à cette idée de passeport vaccinal. Donc il y aurait un contrôle d'identité éventuellement, je dis bien, parce que ça va dépendre de l'avenir de la zone Schengen, dont on va dire un mot dans un instant. Et puis ce passeport qu'il faudra présenter, qu'en dit-on en Italie? Est-ce que Mario Draghi a déjà un avis sur le sujet?
Oui, alors, en Italie, il y a débat, certainement. C'est surtout actuellement certaines régions qui invoquent l'introduction de ce passeport cet été, donc notamment la Sardaigne. Et au niveau central, on est plutôt frileux. Une chose est sûre, c'est très bien que des négociations techniques aient pu commencer au niveau européen, parce que voilà, le jour où il faudra éventuellement introduire un instrument de ce genre, il faudra pas se laisser prendre de court. Une chose est certaine, il faut absolument que l'Europe soit fidèle aussi à ses valeurs. On peut pas abdiquer à nos valeurs, donc il faut absolument que s'il y aura introduction d'un passeport vaccinal, nos concitoyens européens qui n'ont pas envie de se vacciner puissent avoir une alternative. Je pense par exemple au fait de pouvoir faire des tests plus rapidement, parce que voilà, on peut pas obliger les personnes dans le continent qui plus de tous est le continent des libertés individuelles et de la liberté de conscience. On peut pas imposer et créer des citoyens de série série A et Ligue 1 et Ligue 2 avec voilà. Donc mais c'est très bien qu'au niveau européen on commence à débattre de ça. C'est encore trop tôt, parce que même pas 5% de la population européenne est aujourd'hui vaccinée. Donc c'est un débat qui, c'est bien qu'il commence en Italie comme dans le reste de l'Europe. Il est encore prématuré, certes, d'introduire des passeports actuellement. Voilà, il y a encore de l'eau qui doit couler sous les ponts de la Seine, du Tibre ou des autres fleuves européens.
Piotr Moszynski, est-ce que c'est un débat qui agite la Pologne? Évidemment, un passeport vaccinal remettrait en cause la zone Schengen. Alors, on sait que les frontières sont un peu malmenées en ce moment, avec on peut dire au minimum un peu de désordre dans l'ouverture et la fermeture des frontières. C'est vrai entre l'Allemagne et le Tyrol, l'Autriche. C'est vrai aussi entre l'Allemagne et la France. On va y venir avec Pascal Thibault. Mais est-ce que c'est un débat qui agite la Pologne ou pas encore? Pas vraiment. D'un mot,
Pas vraiment. Actuellement, le débat sur le passeport de ce type est accueilli avec beaucoup d'indifférence en Pologne. En fait, presque personne n'en parle, ce n'est pas un sujet. D'ailleurs, les Polonais ont tendance à traiter avec beaucoup de soupçons et méfiance toute proposition d'introduire de nouveaux documents, surtout concernant le voyage. Ils sont vraiment très attachés à la liberté de voyager. Donc, pour l'instant, ce problème ne se pose pas. Et la question de fermeture des frontières dans le contexte épidémique est tout simplement réglée par le gouvernement, qui vient de décider de la fermeture pratiquement de la frontière sud de la Pologne, donc avec la République tchèque et la Slovaquie, à partir justement du week-end que nous vivons. Et donc, il y aura juste quelques exceptions. Il faudra se présenter soit justement, non pas le passeport, mais un certificat de vaccination, ou alors un test PCR, c'est du classique, mais fait 48 heures au maximum avant le passage de la frontière. Donc, il y a donc déjà des gestes pratiques, des décisions pratiques, mais le débat sur le passeport vaccinal, non.
Pascal Thibault, alors évidemment, il y a une contradiction entre la liberté de circulation au sein de la zone Schengen et puis ce passeport vaccinal qui serait évidemment un obstacle. Il faudrait donc présenter un document, un passeport ou éventuellement un certificat de vaccination, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, alors que même en ce moment, les frontières sont malmenées, notamment par l'Allemagne qui a décidé de restreindre la circulation entre le Tyrol, c'est-à-dire l'Autriche et l'Allemagne, et puis entre la France et l'Allemagne avec des restrictions, sauf pour les travailleurs frontaliers. Comment s'articule ce débat libre circulation au sein de la zone Schengen, qui est évidemment un des acquis de la construction européenne, et puis ce passeport vaccinal ou ce certificat vaccinal, ce qui n'est pas évidemment tout à fait la même chose?
Alors, pour ce qui concerne le certificat vaccinal, les avantages, en quelque sorte, ou les privilèges, disent ceux qui sont critiques, dont bénéficieraient les personnes qui sont déjà vaccinées, le scepticisme l'emporte plutôt jusqu'à présent en Allemagne. Le comité d'éthique a émis des réserves. La chancelière Merkel est aussi plus que réservée. Dans une interview cette semaine, elle a dit que, en tout cas, tant que le pourcentage des vaccinés était aussi peu important qu'aujourd'hui, à peine 5%, il n'en était pas question. Ce qu'elle n'a pas exclu, c'est qu'à terme, notamment pour des opérateurs privés, compagnies aériennes, sociétés de transport, cela puisse être utilisé. De toute façon, il serait un petit peu difficile à la puissance publique de les en empêcher. En revanche, elle semblait ne pas soutenir un tel projet pour les autorités publiques. Donc ça reste encore à voir. Il faut pour cela, évidemment, au niveau européen, qu'il y ait accord ou non entre les différents pays. Voilà un petit peu l'état des choses à l'heure actuelle en Allemagne.
Et on n'en est pas là. Alors évidemment, situation bien particulière, John Henley, au Royaume-Uni, où avec le Brexit, le Royaume-Uni s'est un peu refermé sur lui-même. Il faut déjà des papiers pour entrer, montrer patte blanche pour entrer sur le territoire du Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a un débat autour de ce passeport vaccinal ou pas du tout? Entre le Brexit et puis la crise sanitaire, il y a d'autres chats à fouetter qui sont plus prioritaires.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le débat sur le Brexit est malheureusement passé par tout le débat ou a influencé beaucoup le débat sur les vaccins, la vaccination tout court en Grande-Bretagne et la réussite du programme de vaccination britannique a engendré une sorte de grande hurrah des Brexiteurs qui ont dit ah bah voilà ça montre pour exactement le genre de raison pour laquelle on a quitté l'Union européenne. C'est un peu dommage, surtout parce que évidemment la réussite du programme de vaccination britannique n'était pas du tout liée au fait à le fait d'être membre ou non de l'Union européenne. La procédure d'urgence qui a été utilisée a été aussi ouverte à tous les pays européens. C'est juste que les Anglais ont choisi de l'utiliser. Mais il y a un débat sur un passeport de vaccination. Surtout parce que, justement, les Anglais pensent avoir vacciné au moins 70%, peut-être même 80% des adultes, bien avant le début des vacances scolaires d'été. Et il y a beaucoup d'Anglais qui aimeraient bien venir prendre leurs vacances, comme d'habitude, en Portugal, en Espagne, en Grèce. Et d'ailleurs, cette semaine, le ministre de Tourisme grec a annoncé avoir commencé les négociations en vue d'une sorte de, sinon un passeport, mais au moins une sorte de couloir qui permettrait des Anglais vaccinés de passer leurs vacances d'été en Grèce cet été. C'est pour l'instant, c'est une théorie, c'est une idée, et si ça survivrait à une décision européenne, donc à Bruxelles, une décision collective contre ce genre de passeport, on ne sait pas. Mais voilà, de toute façon, les Anglais y pensent déjà et ont commencé des pourparlers avec les pays au sud de l'Europe pour voir si ce serait pourrait être possible cet été.
Nous verrons. La principale préoccupation et la principale inquiétude des Européens aujourd'hui, c'est un peu moins la peur du Covid, c'est un peu moins le vaccin, quoique c'est la dégradation de l'économie dans leurs pays respectifs. 84% des Français, 72% des Allemands, 80% des Britanniques et 89% des Italiens sont inquiets quant à l'avenir économique de leur pays. Et là, le rôle de l'Europe est évidemment central. L'Union européenne a développé, à travers la Banque centrale européenne notamment, 200 milliards dans un programme d'urgence pour assurer le paiement du chômage partiel, le soutien aux entreprises. Et puis un plan de relance de 750 milliards d'euros qui est en train de se mettre en place. Paolo Levi, l'Italie a été très critique à l'égard de l'Union européenne au début de la gestion de la crise. Est-ce que les Italiens ont changé un petit peu leur regard sur l'Union européenne? Et est-ce que aujourd'hui, hein, ça peut changer, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Europe sort grandie de la gestion de cette crise d'un point de vue italien?
Ah, disons que la lecture qu'on peut faire, c'est que après 10 ans de crise économique, financière, ensuite il y a eu la crise de la dette, ensuite il y a eu la crise migratoire, toutes des crises où les Italiens étaient en première ligne et se sont sentis un petit peu abandonnés par l'Europe. Donc tout cela avait suscité, disons, dans un pays traditionnellement très très europhile, parce que les Italiens sont vraiment dans les eurobaromètres, depuis le début de la création de l'eurobaromètre, ont toujours été parmi les peuples les plus europhiles d'Europe. Voilà, ces derniers 10 ans, donc des années 10 aux années 20, il y a eu un petit peu un désamour des Italiens par rapport aux institutions européennes et au projet d'intégration européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, après ces 10 ans où on a vu en parallèle aussi la montée des populismes avec l'extrême droite de Matteo Salvini qui a eu devant en poupe ces dernières années avec le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, voilà, tout ça est en train de s'estomper. Il y a un grand retour en force de la compétence. On l'a vu avec la nomination de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien, parce que face à une crise de ce genre, je pense que les Italiens, ils ont compris que il est plus que jamais nécessaire de faire preuve d'unité et de remettre la compétence là où elle doit être. Et avec cela aussi un sentiment d'europhilie qui est en train de reprendre un petit peu de couleur. Il ne faut pas oublier que l'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen. C'est quand même une cagnotte de 206 milliards d'euros qui arrive aux Italiens, et donc il est plus que jamais fondamental que cet argent soit dépensé de la façon la meilleure possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mario Draghi a été nommé, parce que il faut absolument pas que cet argent soit gaspillé dans des projets de court terme, qu'il puisse fructifier aussi pour les générations futures.
On a compris, Paolo Levi, le retour de l'Europe au sein de la pensée et de l'espoir des Italiens. Un tout petit mot, Piotr Moszynski, gouvernement nationaliste, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, mais évidemment, la Pologne sera aussi un des principaux bénéficiaires de ce plan de relance. Les Polonais en sont conscients, ils retrouvent confiance dans l'Europe ou pas? Vraiment, quelques mots, Piotr.
Ils en sont conscients, mais le gouvernement lui-même essaye plutôt de concentrer l'attention des Polonais sur les aides justement gouvernementales. On appelait ça bouclier économique, donc 3 boucliers ont déjà été annoncés, mais malheureusement ça n'a pas changé grand chose. Il y a toujours les entrepreneurs, surtout les petits, sont aussi nombreux à clamer leur manque de moyens et menace de banqueroute. Mais on parle de l'aide européenne, mais sans entrer trop en détail, je crois que quand ça va venir, le gouvernement va essayer de distribuer les fonds en suggérant que c'est surtout...
Ça vient plutôt de Varsovie que de Bruxelles.
Voilà, c'est un quatrième bouclier.
On a compris. Pascal Thibault, d'un mot, l'Allemagne entre en campagne électorale, il y aura des élections pour succéder à la chancelière Merkel en septembre. Le rôle de l'Europe dans cette crise, plutôt un rôle d'ailleurs leader de la part de la chancelière Merkel, il n'est pas remis en cause, sauf peut-être par l'AfD, le parti d'extrême droite.
Oui, tout à fait. C'est clair que l'AfD a une position qui est tout à fait contraire à la plupart des autres partis. Je pense que les choses ont évolué, notamment du côté des chrétiens démocrates, qui ont quand même brisé un tabou et en acceptant un plan de relance financé en partie par des dettes prises par l'Union européenne, ce qui aurait été impensable quelques années auparavant. On voit qu'il y a un changement de logiciel concernant ce sujet. D'ailleurs au plan national aussi, ce qui fait que sur les dossiers européens, c'était déjà pas le cas dans le passé, mais ça ne jouera pas un rôle, je pense, central, et il n'y a pas de grande polémique à attendre lors de la campagne électorale à venir.
D'un point de vue allemand, l'Europe sort plutôt grandie de cette crise, c'est un peu un sentiment allemand?
Oui, je pense qu'on a l'impression que c'est le cas. On a l'impression d'y avoir contribué en ayant accepté le plan de relance et en ayant été évidemment activement, bien entendu, acteur de ce changement avec les propositions franco-allemandes qui ont été faites en amont et ensuite adoptées par l'ensemble de l'Union européenne. Et on s'est aussi rendu compte, ce qui explique aussi ce changement de logiciel, que l'Allemagne, si elle avait beaucoup plus de capacité à surmonter la crise actuelle, elle ne pouvait à terme, que, enfin, où cette crise ne pouvait être surmontée que de façon européenne, parce que l'Allemagne, en raison de sa puissance économique et de sa puissance exportatrice, a tout à gagner à avoir des voisins en bonne santé pour acheter ses produits, pour être très terre à terre.
Merci John Henley, Paolo Lévy, Piotr Mojinski, Pascal Thibault. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, RFI.fr, rubrique podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, par exemple Deezer, Apple ou Google. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Rome, Varsovie, Berlin, Londres et bien sûr Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Géopolitique, le débat.
La pandémie mondiale.